RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Le printemps est arrivé, la belle saison. Chantait Michel Fugain et son Big Bazar, une épopée folklorique que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Et dans cette émission, on célébrera non pas ces hippies de l'ORTF, mais bien le printemps, clou du spectacle du cycle des saisons. Une émission où, comme chaque semaine, on découvrira les enthousiasmes de nos chroniqueurs dans l'actualité culturelle. Une émission où il sera question de terroir, de saga familiale, de pastel, de grande musique, de rock and plug et de zombies. Si, si, de zombies. Nos chroniqueurs cette semaine ont l'œil bien vif et l'esprit aux aguets. Et je vous rassure, ils ne reviennent pas d'outre-tombe. Et ils sont trois. Éric Dupri, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Vous êtes à Toulouse, chez nos amis de Radio Présence. Le terroir, c'est vous, avec la plume sensible de Marie-Hélène Lafont. La grande musique, c'est vous aussi, avec le concert des 25 ans du chœur Les Éléments ce week-end à Toulouse. François-Xavier Maigre, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez maintenant dans un cabinet de conseil, mais pour nous, vous restez l'homme du rock et de la poésie. Vous nous parlerez du grand retour de U2 avec Bono et Edge qui se penchent avec bonheur sur leur carrière. Et puis c'est à vous que l'on doit de parler zombies dans cette émission grâce à la série The Last of Us. Et puis grand bonheur dans cette émission que d'accueillir une nouvelle chroniqueuse. Agnès Manoret-Tonil, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Vous travaillez pour la revue Études. Vous êtes là sous les bons conseils de Nathalie Sartoulajus que l'on salue. Et avec vous, on parlera littérature avec le dernier livre de Déborah Lévy-Bertera, Sur la Terre des Vivants, et art plastique avec la toute dernière exposition au musée d'Orsay, une exposition très délicate puisqu'il s'agit de pastel. Voilà deux chroniqueurs, une chroniqueuse, on peut ouvrir cette émission.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Il y a des jours comme ça où les monstres sacrés tombent de leur piédestal et deviennent des ogres comme les autres. Non pas des Shrek sympathiques à la peau verte et à la flatulence facile, mais des sales types au regard torve, aux mains baladeuses et à la panse frotteuse. Depardieu, puisque c'est de lui dont il s'agit, a donc considéré que ces jeunes femmes qui travaillaient autour de lui étaient à sa disposition, que c'était un honneur pour elles que de le voir s'intéresser à elles, qu'il était un gentleman qui aimait séduire et était aimé pour cela. Stop. Aujourd'hui, ces fables que ce monsieur malheureusement se raconte ne passent plus. Hommage à Charlotte Arnoux, la première à oser porter plainte contre la star et à dénoncer le viol dont elle fut l'objet en 2018. Elle avait alors 22 ans. On souhaite beaucoup de courage à ces sœurs de malheur pour qu'elles osent aller au bout de leur démarche et déposer ce drame intime devant les tribunaux. Depuis bientôt 50 ans, Depardieu fait les hauts et les bas du cinéma français, incarnant héros, pauvre gars, ordure et poète. On sait bien que s'il y a toujours une part de vérité dans le travail de comédien, l'acteur n'est pas le personnage qu'il incarne. Mais peut-être qu'à un moment, on finit par perdre la tête et ne plus s'y retrouver. Mathieu Sapin m'avait fait beaucoup rire avec sa BD sur les aventures de Depardieu. L'ogre était encore sympathique. Ce même Depardieu m'avait bouleversé dans son récital des chansons de celle qui était son amie, Barbara. L'ogre se montrait capable d'une incroyable délicatesse. Aujourd'hui, 13 femmes brisent le mur du silence et racontent un autre Depardieu. Alors bien sûr, la présomption d'innocence existe, mais il nous faut aussi écouter les victimes et ne plus tolérer de tels comportements. Et au-delà du cas Depardieu, il y a tous ces silences complices, tous ces regards qu'on détourne, les mêmes qui ont laissé PPDA sévir pendant tant d'années. Le monde du cinéma, par les récits qu'il raconte, par la fascination qu'il exerce et par sa capacité à exposer les hommes et les femmes, se doit définitivement d'être exemplaire. Le respect des femmes ne peut plus être une option.
Vise mon Jules, cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, le voilà, le printemps tout fleuri de lilas, qui réplique en dansant la java. Le voilà, ce voyou au son de l'accordéon, qui court le guille doux en poussant la chanson, entend comme sa chahute dans tous les palpitants, l'hiver se tire des flûtes. Enfin le printemps, ne fais pas la tête, tu serais bien bête de te faire du mouron. Quand sur toute la frelote un petit air de révolution. J'ai choisi pour toi ma robe de soie, mes colifichets, pour dormir sur l'herbe en écoutant tinter les muguets.
Édith Piaf, vise mon Jules, ne fais pas la tête, tu serais bien bête de te faire du mouron quand partout sur terre flotte un petit air de révolution. Et oui, le printemps, c'est bien la saison qui rabat les cartes et fait naître des espérances après le froid de l'hiver et cette dormance qui permet aux graines de renaître dès qu'arrivent les beaux jours. Voilà donc ce printemps, enfin le printemps. La France, on l'a appris à l'école, hein, c'est un pays au climat tempéré. Et qu'est-ce qu'un climat tempéré ? Ben celui où s'intercale entre le froid de l'hiver et le feu de l'été, le printemps, cette saison de toutes les résurrections. Alors bien sûr, hein, il y a aussi l'automne, vous savez, avec ses colchiques dans les prés, mais bon, ce sera pour une prochaine émission. On avait déjà, dans Effervescence, célébré l'hiver, s'inquiétant qu'avec le réchauffement climatique, cette saison, excusez-moi, foute le camp. Nous voilà donc aujourd'hui à glorifier le printemps, saison du vert profond et des explosions de couleurs, saison des naissances et des renaissances, bref, saison de tous les possibles, de toutes les espérances. J'ai donc demandé à chacun des chroniqueurs d'Effervescence leur œuvre printanière de chevet. Éric Dupri, on sait quel grand mélomane vous êtes. Vous auriez pu nous dire Vivaldi, mais c'était trop facile. Alors on écoute, allez tiens, Beethoven. Éric Dupri, alors on écoutait la sonate de printemps de Beethoven, c'est ça ?
C'est la sonate pour violon et piano numéro 5, c'est sans doute la plus jouée et la plus connue de ce type chez Beethoven. Et le titre « Le printemps » a été ajouté après la mort de Beethoven, il n'est pas de lui. Cela dit, lorsqu'on l'écoute, effectivement, on s'imagine très bien dans les prés, en train de gambader joyeusement. Voilà, et c'est une version aussi célèbre puisque le violon c'est celui d'Isaac Perlman et le piano c'est Vladimir Ashkenazy, donc c'est un enregistrement fameux et magnifique. Voilà, donc moi je trouve ça symbolise, oui, très bien, le printemps, la renaissance, la lumière, parce que c'est le retour aussi de la lumière, les jours rallongent considérablement d'un seul coup, et puis la nature explose, il y a du vert, du jaune, c'est les deux couleurs qui dominent tout de même, hein, à ce moment-là, à l'automne, il y en a d'autres, hein, mais là c'est le vert et le jaune, et puis il y a cette lumière, oui, encore une fois, très particulière du printemps, et moi c'est ma saison préférée, c'est celle où je revis.
C'est une saison qui inspire beaucoup les compositeurs.
Beaucoup les compositeurs, les artistes en général, parce que vous parliez du printemps de Vivaldi, mais on aurait pu parler du printemps de Botticelli aussi. Hein. Les peintres, évidemment, ont été inspirés par cette saison. Et puis, il y a évidemment le sacre du printemps de Stravinsky, et je pense que c'est là que vous m'attendiez.
Bah oui, je crois que c'est une œuvre phare pour vous.
Non seulement pour moi, mais je pense partout, pour tous ceux qui aiment la musique dite classique. Ça a été sans doute, c'est certain, c'est une des très grandes œuvres du XXe siècle. Il y a un avant et après le Sacre du Printemps, clairement. Hein. Et puis, je vais raconter un peu la création, parce que la création a lieu le 29 mai 2013 au Théâtre des Champs-Élysées. Et ce jour-là, les spectateurs, beaucoup de ceux qui étaient dans la salle, ont carrément cassé les sièges. Ça a été un scandale.
Les Beatles avant l'heure.
Un scandale. Ah oui, c'était un véritable. Oui, ils n'ont rien inventé. Les spectateurs ont cassé les fauteuils. Et ça a été diversement apprécié, à la fois par ceux qui étaient présents, je parle des journalistes présents, mais même par les compositeurs de l'époque. Saint-Saëns, par exemple, lui, dit n'avoir entendu que du vacarme. Quand il a découvert cette musique, il a dit, pour moi, il n'y a que du vacarme là-dedans. Ravel et Debussy étaient présents dans la salle. Eux ont beaucoup aimé. Ravel, à la fin, applaudit à tout rompre et crie « Génie, génie, génie !» en parlant de Stravinsky. Bon, Stravinsky, lui, était un peu mortifié par ce qui s'était passé dans la salle. Il n'a pas très, très bien vécu. Alors, Le Sacre du Printemps, d'ailleurs, il y a eu un jeu de mots qui était facile à faire. Le lendemain, il y en a qui ont titré, c'était le Massacre du Printemps. Mais le sous-titre, c'est Tableau de la Russie païenne en deux parties. Vous voyez, donc c'est pas forcément une ode au printemps, hein, c'est pas quelque chose comme la sonate de Beethoven où on s'imagine en train de gambader dans les prés. C'est une musique tellurique, mais vraiment tellurique. Et il y a ça aussi au printemps, la nature qui renaît, la sève qui monte dans les arbres, on sent toute l'énergie de la terre, de la nature qui est sous nos pieds, enfin, tout est en train de renaître. Et ces deux tableaux, c'est l'adoration de la terre, et le deuxième tableau, c'est le sacrifice. Quand il commence à composer, quand il a l'idée de la composition, voici ce que dit Stravinsky. Il travaillait encore à L'Oiseau de Feu, hein, qui lui a été composé 2 ans auparavant. Et il écrit « J'entrevis dans mon imagination le spectacle d'un grand rite sacral païen, les vieux sages assis en cercle observant la danse à la mort d'une jeune fille qui sacrifie pour leur rendre propice le dieu du printemps. » Vous parliez de Gérard Depardieu tout à l'heure. Vous voyez,
les j'ai ogres, pas fait exprès,
je l'assure. Voilà. Hein. Je l'assure. J'ai beau être né dans la même ville que Gérard Depardieu, je n'ai pas du tout la même relation que avec les femmes.
J'espère bien.
Mais je peux vous le confirmer.
Je suis sûr.
Voilà, donc non, c'est une œuvre vraiment extraordinaire. Et l'autre chose que je trouve très importante à dire, donc 1913, la création, mai 1913, un an après, c'est la déclaration de guerre, la Première Guerre mondiale, avec tout ce qui va suivre. 4 ans après, c'est la Révolution russe. Donc il y a une espèce de prémonition du cataclysme qui va, de tous les bouleversements qui vont toucher l'Europe dans les années qui vont suivre. C'est très troublant, ça. Enfin, moi, ça me trouble encore à chaque fois que j'écoute cette musique. Et si vous nous passez un extrait, on va, je pense, comprendre de quoi je veux parler.
Et on écoute un extrait.
Donc, c'est l'Adoration de la Terre.
Le Sacre du Printemps de Stravinsky. Et je crois que c'était dans une version dirigée par Pierre Boulez, Eric.
Absolument, l'orchestre de Cleveland, un enregistrement dirigé par Pierre Boulez. Très très belle version. Alors ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que c'est une musique pour la danse. Ça avait été commandé par les ballets russes de Diaghilev. Et la chorégraphie lors de la création était signée Nijinsky. D'ailleurs, il y a eu une petite brouille ensuite entre Nijinsky et Stravinsky qui était finalement, il avait validé la chorégraphie, puis après, il n'était pas très content de ce qu'avait fait Nijinsky. Bon, voilà, vous savez, entre génies, parfois, on a du mal à cohabiter.
Merci, Éric Dupri. François-Xavier Maigre, on connaît votre amour de la poésie. Cette célébration du printemps vous donne, vous, l'occasion de nous parler d'une des grandes voix de la Grèce, le poète Yannis Ritsos.
Oui, qui est mort en 1990 et dont les éditions Bruno Doucet ont publié il y a un peu plus de 10 ans, en 2012, pour la première fois en français, un très très beau livre qui s'appelle justement Symphonie du printemps. C'est tout trouvé pour notre thème et qui est un livre absolument magnifique puisqu'il vient, après toute une série d'épreuves qui se sont abattues sur ce grand poète grec, à la fois des drames familiaux, la maladie, la ruine économique. Enfin, il a tout traversé. Et il y a ce livre comme ça qui surgit au milieu de toutes les épreuves qui les suit et qui est un hymne à l'amour, à la nature, au retour de la vie. Et il y a des très très beaux textes. C'est vraiment un livre absolument magnifique où on a cette puissance de la parole poétique, ce recours à l'imaginaire pour surmonter toutes les dévaines que on peut traverser dans une existence humaine. C'est un livre que j'aime beaucoup. Et avec ces quelques mots que je peux vous lire, « Mes chers semblables, comment pouvez-vous vous courber encore? Comment pouvez-vous ne pas sourire? Ouvrez les fenêtres, le monde resplendit, infatigable. » Et quand on sait tout ce qu'a traversé Yannis Ritsos, c'est des mots qui ont un poids énorme.
C'est aussi la tragédie de la Grèce qui peut renaître avec cette voix.
Oui, c'est vrai que quand il a été publié en français en 2012, il y a eu une résonance très forte avec l'actualité sociale très dur que traverser la Grèce. Et je trouve que c'est finalement à toutes les époques, aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, dans un monde à feu et à sang, marqué par les inégalités, par les crises, c'est une parole de relèvement dont on a besoin. La poésie a cette puissance, on croit souvent que c'est quelque chose, on est dans la joliesse, dans l'accessoire, mais pas du tout. La poésie, c'est le chant de la vie. Et ce chant n'a jamais plus de sens que lorsque on n'a plus rien tout autour.
Agnès Manouret-O'Neill, vous aussi, hein, vous avez une âme de poète quand il s'agit de parler du printemps. Et en préparant cette émission, bah, vous vous êtes souvenu de vers appris sur les bancs de l'école.
Oui, et je pense que si je cite les deux premiers vers de ce rondeau de Charles d'Orléans, tout le monde va le reconnaître tout de suite. « Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderies, de soleil luisant, clair et beau. » Et en fait, j'ai choisi ce poème en me disant « C'est curieux comme de me le rappeler, il me fait retraverser à l'envers tous les printemps depuis mon enfance jusqu'à maintenant, et puis au fond, toutes les saisons aussi. » Et c'est très intéressant que François-Xavier nous ait parlé de ces poèmes qui font la célébration du printemps pour dire la vie est difficile, on traverse beaucoup de choses, mais regardez le printemps, vivez, ouvrez les yeux. Mais au fond, c'est ce qui se passe aussi avec Charles d'Orléans.
Vous nous rappelez Charles d'Orléans, c'était il y a alors, très longtemps, Charles d'Orléans.
Oui, Charles d'Orléans, je parlais d'Azincourt, 1415. Une défaite qui fait que cet homme qui était promis à un grand destin politique dans le royaume de France se trouve en captivité pendant 25 ans chez les Anglais. Alors, bon, c'est une captivité, on va dire, qui lui permet d'avoir une très belle bibliothèque, de lire et de développer son goût pour la poésie qui ne se serait peut-être pas développé s'il n'avait pas été en captivité. Et il écrit notamment ce rondeau-là, mais beaucoup d'autres aussi qui ont tous une tonalité assez mélancolique, qui parle du fait que le temps passe, que l'amour fait mal parfois. Et puis il y a ce poème-là qui est vraiment le poème de la fraîcheur, qui nous parle du jargon, du cri des oiseaux, qui se mettent à l'unisson de toute la nature pour dire « ça y est, l'hiver est fini, ce manteau de froidure est tombé » et le poème se termine en disant que chacun s'habille de nouveau. Et alors moi, je dois dire que ce vers-là éveille tout de suite les souvenirs de quand on était enfant et qu'on attendait le moment où on allait ranger les manteaux d'hiver et qu'on allait sortir les habits d'été. Alors on dit les habits d'été, mais en fait on les sort toujours trop tôt, bien sûr. Et on sort les jupes à fleurs, on sent le vent sur les jambes parce qu'on met plus de collants. Et il y a tout ça pour moi dans ce poème. Et je dois dire que si j'avais eu à choisir une œuvre musicale, j'aurais peut-être choisi Beethoven aussi, mais alors la symphonie pastorale, peut-être qu'Éric sera d'accord avec moi, je ne peux pas empêcher d'avoir envie de chantonner le début. On entend presque le pépiment des oiseaux, comme dans le rondeau de Charles d'Orléans.
Alors ce rondeau de Charles d'Orléans, il a été interprété par de nombreux artistes et musiciens, et vous nous avez choisi une en particulier.
J'ai choisi en effet une mise en musique par un groupe toulousain, le trio Célima, avec deux voix qui sont accompagnées au luth. Et je trouvais qu'on sentait dans la mise en musique cette mélancolie qui est celle de Charles d'Orléans et qui contraste peut-être un peu avec les paroles de ce poème très gai, très frais, très vivant du printemps. Mais j'aime cet entrelacement en fait de la gaieté et de la mélancolie. Je trouve qu'on l'entend dans cette mise en musique.
Le temps a laissé son manteau de vent, de froid,
c'est
Voilà, on retient l'ensemble Célima, un ensemble qui nous vient de Toulouse.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
Et on quitte les couleurs du printemps pour une tonalité beaucoup plus sombre. The Last of Us, c'est une série sur Amazon Prime qui fait beaucoup parler d'elle. François-Xavier Maigre, vous l'avez regardé. Nous sommes dans un monde post-apocalyptique. La civilisation est dévastée par une pandémie causée par un mystérieux champignon, c'est ça ?
Oui, le Cordyceps. Et donc, on suit deux personnages, une jeune fille, une jeune adolescente et un homme, Joël. Donc, Joël et Ellie, un homme dévasté, une jeune fille qui a grandi trop vite et qui survivent dans ce monde qui ressemble étrangement au nôtre, mais qui a été effectivement dévasté par cette épidémie. Et les personnes infectées, en fait, sont transformées en zombies par ce champignon et deviennent une menace. Et du coup, les derniers survivants sont obligés de vivre cachés dans des circonstances très dures avec énormément de d'encadrement, et là-dedans il y a des gens qui se rebellent, enfin voilà, la menace est partout, finalement elle est avec les zombies, mais elle est aussi entre survivants. Et je vais pas déflorer l'intrigue, mais on a ces deux personnages qui traversent les États-Unis pour survivre. Et c'est une série extrêmement dure qui a été adaptée à l'origine d'un jeu vidéo et que j'ai trouvé. Elle est très pénible à regarder. Hein.
Pénible, je sais carrément. Pas si...
Ouais. Moi, après, j'ai un seuil de tolérance qui est assez faible à l'horreur, mais en tout cas, elle est extrêmement bien jouée. La photographie est sublime. Les acteurs sont
François-Xavier, je vous propose qu'on se mette un peu dans l'ambiance. Alors, on n'aura pas les images, donc on n'a pas besoin de sortir les enfants. Hein, c'est en anglais en plus. Et puis, la bande-annonce et tout ce qu'il y a de plus. Et puis après, vous nous direz pourquoi, malgré tout, malgré le scénario un peu horrifique, c'est intéressant de la regarder.
If you don't think there's hope for the world, why bother going on? If you don't think there's hope for the world, why bother going on?
You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family.
I'm not family.
No. You're cargo.
Why are you so important?
Somewhere out west, they're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster.
If she so much as twitches, don't.
Voilà, je voyais les grands yeux d'Agnès à mes côtés en entendant cette jeune fille qui faisait, je vous le dis, hein, elle faisait semblant de s'étouffer. Alors pourquoi, malgré la difficulté de certaines scènes, hein, on est dans un film fantastique avec je crois qu'on peut quand même le dire, hein, des zombies qui apparaissent, pourquoi cette série vous a paru intéressante ?
Je trouve que c'est une dystopie qui cristallise un peu toutes les grandes tensions et les grandes peurs contemporaines. On sort quand même d'une pandémie mondiale, donc il y a des résonances comme ça qui sont extrêmement fortes. Ça nous pose aussi la question d'un monde qui potentiellement pourrait disparaître, et de qu'est-ce qui mérite d'être préservé, comment l'homme peut survivre. Finalement, quand on a tout perdu, ce qui nous reste, c'est nos relations humaines, c'est notre capacité à nous entraider, à surmonter l'adversité. Donc moi, je trouve que c'est une série que j'ai trouvée très intéressante, mais un peu éprouvante à regarder. Mais c'est aussi le propre de l'art, quoi, de nous proposer des catharsis comme ça qui nous secouent un peu et qui viennent donner du sens à ce qu'on vit nous-mêmes. Et voilà, je trouve que ça nous fait réfléchir sur le prix de la liberté, sur qu'est-ce qu'on est prêt à faire ou pas pour survivre sans les autres ou avec les autres. Ça soulève énormément de questions, et c'est une série qui est extrêmement bien scénarisée. À chaque fin d'épisode, on est vraiment tenu en haleine, on a envie de voir le suivant. Encore une fois, la photographie est très belle, les couleurs sont...
Les paysages.
Ouais, les paysages, ce monde post-apocalyptique, qui est un monde dans lequel on peut se projeter. On a des repères, on voit des traces de civilisation. La catastrophe est encore proche du temps de l'histoire. Et c'est vraiment une série que j'ai trouvée fascinante et qui permet aussi de se poser des questions sur la crise environnementale, sur notre capacité aussi à générer ces virus à travers notre mode de vie. Enfin voilà, il y a plein de sujets qui sont soulevés, Et j'ai trouvé que c'était une série extrêmement haletante et réussie.
Avec une jeune héroïne très impressionnante et très attachante.
Ouais, ouais. Vraiment impressionnant.
Ça s'appelle The Last of Us et vous pouvez la regarder si vous êtes sur la plateforme Amazon Prime. Après avoir évoqué une série avec des morts vivants, retour sur La Terre des Vivants. Et La Terre des Vivants, c'est le titre du nouveau roman de Deborah Lévy-Bertera. Vous l'avez lu, Agnès, cette Terre des Vivants. On commence par évoquer le titre.
Oui, on évoque le titre. C'est un verset d'un psaume. Et les références bibliques sont nombreuses, mais pas du tout omniprésentes dans ce roman, qui est l'enquête en fait de Deborah Lévy-Bertera, qui est partie à la recherche de sa famille juive allemande. Elle a connu ses grand-tantes vieilles femmes alors qu'elle passait des vacances en Palestine, et elle a décidé de reconstituer cette histoire, mais d'une façon très personnelle, presque intime, tout en reconnaissant que on ne peut jamais connaître la vie de ses ancêtres. Et ce qui revient comme un leitmotiv dans tout le roman, c'est que nous sommes vivants, nous sommes sur la terre des vivants, et que cela nous donne un devoir de vivre. On a aussi plusieurs fois un retour de ce verset du Deutéronome, je mets devant toi la vie ou la mort, choisis la vie. Alors je trouve que les échos sont nombreux avec ce que François-Xavier vient de nous raconter, et il y a un personnage en particulier qui est particulièrement attachant, qui est une des grand-tantes de Deborah Lévy-Bertera et qui s'appelle Irma. Irma, quand elle est petite, va à un moment faire une fugue dans le cimetière. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut faire une fugue dans un cimetière?
Oui.
Alors quand vos parents sont en fait les administrateurs, les économes d'un hospice de vieillards qui justement est la porte d'entrée vers le cimetière.
Ils jouxtent le cimetière.
Si vous voulez, c'est comme faire une fugue dans le jardin. Et par ce voyage en fait sur la terre des morts, Irma va garder le contact avec la vie alors qu'elle avait eu une naissance difficile, elle s'était mal présentée, elle a failli faire mourir sa mère. Et ce personnage que l'on va suivre à travers la grande tragédie des juifs allemands du XXe siècle, puisqu'elle va être déportée à Térésine, où elle va accompagner sa mère jusqu'à ses derniers instants. Ensuite, elle va émigrer en Palestine, mais pas forcément y trouver le bonheur. Et pourtant, toujours, elle va se rappeler que ses parents lui avaient montré qu'il y a une frontière entre les morts et les vivants, et que si on sait rester du bon côté de la frontière, alors on peut avancer et on peut vivre avec les autres.
Alors je crois que le talent de Deborah Lévy-Bertera, c'est vraiment de nous associer à l'enquête. C'est un récit haletant.
C'est un récit haletant parce que donc elle alterne des récits souvent un peu romancés de ce qu'ont vécu ses ancêtres, Irma, Kurt, Zenta, et puis sa recherche dans les archives, dans les photos. Il y a des chapitres notamment où elle scrute plusieurs fois des photos de famille, où elle essaie de déceler dans le coin d'un sourire ce qu'il peut y avoir comme signification, un sentiment caché. Et puis elle se lie d'amitié avec les personnes qu'elle rencontre dans sa recherche d'archives à Hambourg ou dans les différentes villes d'Allemagne.
On est un peu dans l'autofiction ?
Oui, on est un peu dans l'autofiction, même si je dirais que sa discrétion, sa grande pudeur sur sa propre vie à elle, fait que on est plus près d'Irma, de Fick, que de la narratrice, qui prend soin de faire toute la place à ces femmes qui lui ont donné la vie. En fait, c'est vraiment l'histoire d'une transmission.
Ça s'appelle Sur la terre des vivants. C'est donc signé Deborah Lévy-Bertera et c'est publié aux éditions Rivage. Merci beaucoup, Agnès. Eric, on continue avec vous. On sait que vous êtes à Toulouse et ce samedi, à la Hallograin de Toulouse, il y aura un concert anniversaire. C'est l'anniversaire d'un chœur, le chœur Les Éléments, je crois qu'on dit comme ça, qui fête ses 25 ans.
Oui, exactement. Alors, les 25 ans, en fait, c'était en septembre dernier, parce que le chœur a été fondé en septembre 1997 par Joël Subiette, qui dirige toujours l'ensemble aujourd'hui. Mais c'est la saison du 25e anniversaire. Et le grand événement de cette saison, et en effet, c'est ce concert de samedi, là, à 20h30, à la Hallograin à Toulouse. Bon, Joël Subiette, c'est quelqu'un qui a fait ses armes avec des gens comme Philippe Hervé et William Christie, hein, donc vous voyez un peu d'où il vient. Il y a côtoyé d'ailleurs des gens comme Hervé Niquet, Marc Minkowski, Christian Rousset, aux Arts Florissants de William Christie. Voilà, tous ces gens-là sont sortis de la couveuse William Christie, Arts Florissants. Et en fondant le cœur, les éléments, bah, je ne sais pas s'il savait, enfin si je le sais parce qu'il me l'a dit, ou qu'il arriverait à ce qui est devenu cet ensemble aujourd'hui. Mais bon, je vais rappeler qu'il y a eu une victoire de l'ensemble de l'année aux victoires de la musique classique en 2006. D'ailleurs, cette récompense leur avait ouvert les portes de salles telles que le Théâtre des Champs-Élysées ou l'Opéra Comique, où ils sont très très souvent convoqués, notamment pour chanter de l'opéra baroque français, pour faire le chœur d'opéra baroque français. Il y a eu une dizaine de CD, il y a eu des collaborations avec l'Orchestre du Capitole à l'époque de Michel Plasson et même de Tougan Sokiev, avec les talents lyriques de son ex-compagnon des Arts Florissants Christian Rousset, avec la chambre harmonique d'Emmanuel Krivine. Et puis aujourd'hui, les éléments, bah, c'est un centre d'art vocal en Occitanie, il y en a 5 en France.
Ils ont une spécialité,
eux,
non?
C'est eux qui... Alors une spécialité, oui, alors ils ont un répertoire très large qui va vraiment des premiers temps du baroque, même d'avant le baroque, quasiment de la musique de la Renaissance, jusqu'à la composition contemporaine, puisqu'ils ont créé beaucoup d'œuvres de compositeurs contemporains, comme le Libanais Zatmoul Takar, le Grec Markéas, ou le Français Patrick Burgan. Ils ont travaillé aussi avec Thierry Pécou. Ils ont fait beaucoup de tournées à l'étranger, Amérique du Nord, Liban, Europe bien sûr. Voilà, alors la spécialité, ce qu'on pourrait dire, c'est que il y a la diction, la lumière dans le phrasé, la couleur des voix. Ça, c'est un héritage, je pense, du travail qu'il a pu faire à l'époque chez Philippe Hervègue. Et puis, le programme de ces 25 ans, ils auraient pu faire beaucoup de choses parce que ils ont chanté vraiment tous les répertoires. Et ça va être un programme de musique anglaise. Alors pourquoi ? Parce que la musique anglaise est très importante dans le répertoire choral. On pourrait même presque dire que ce sont les Anglais qui ont inventé la musique de chœur, en tout cas qui l'ont portée à son plus haut degré d'expression. Et la musique anglaise, en fait, a toujours accompagné les éléments depuis plus de 20 ans. Il y a eu 2 CD de musique anglaise, dont un très beau, qui était intitulé Shakespeare Songs, paru en 2003. Et au centre du programme du concert de samedi, il y a le Dixit Dominus de Georg Friedrich Händel, qui, comme vous pouvez le remarquer, n'a pas un nom qui sonne très anglais. Il est né allemand et il a été naturalisé anglais. Donc, il a fini sa vie en Angleterre, où il a été d'ailleurs extrêmement célébré. Et le Dixit Dominus a été composé à l'époque où il était encore allemand et à Rome. Vous voyez, donc c'est vraiment une œuvre européenne, pourrait-on dire. Et les éléments ont créé la version qui va être chantée samedi en la cathédrale de Montpellier lors du dernier festival Radio France Occitanie de Montpellier. C'était en juillet de l'année dernière, avec l'ensemble instrumental Les Ombres, qui est un ensemble basé à Montpellier justement. Voilà, il y aura d'autres pièces de Henry Purcell comme son Ode à Sainte-Cécile. Il y a aussi l'Ode à Sainte-Cécile de Benjamin Britten. Vous voyez, il y a plus de 4 siècles qui séparent Purcell de Britten. C'est ça qui est extraordinaire pour une œuvre qui porte le même titre. Et puis, il y a des œuvres d'un compositeur contemporain, Jonathan Harvey, qui est mort il y a quelques années. Donc, on balaye 5 siècles de musique anglaise du 16e au 21e siècle. Ça va être magnifique, ça va être la grande fête pour les éléments, puis ça va être la grande fête avec la musique anglaise.
Et voilà, on écoute la pièce maîtresse,
Dixit Dominus.
Exactement. Le chœur Les Éléments que vous retrouverez samedi à l'Allograin à Toulouse avec l'orchestre Les Ombres.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Et un autre livre qu'on vous présente dans cette émission Effervescence, avec vous, Éric Dupri, un livre d'une autrice qui vous est chère, je crois, Marie-Hélène Lafont. Elle publie chez Buchet-Chastel Les Sources. C'est un récit où on retrouve les principaux thèmes chers à Marie-Hélène Lafont.
Oui, absolument. Marie-Hélène Lafont qui creuse le même sillon, c'est peut-être pas tout à fait le terme qu'il faut employer, mais je vais l'employer quand même parce qu'il est question de paysannerie. Donc le sillon, je trouve que ça lui va bien. Je pense qu'elle serait d'ailleurs contente que j'utilise ce terme. Je précise que je l'ai rencontrée, que c'est une femme tout à fait charmante, Marie-Hélène Lafont. Elle est venue plusieurs fois à Toulouse à une certaine époque. On la voit moins depuis quelques années, à mon grand regret, mais bon, tant pis. Donc elle poursuit cette œuvre romanesque qui a commencé en 2001 avec le Soir du Chien. Et jusqu'à Histoire du Fils en 2020, pour lequel elle a eu le prix Renaudot tout de même, en passant par Les Pays, Joseph, L'Annonce. Les intrigues ont toujours lieu, ou presque toujours lieu, dans son Nord-Cantal natal, dans cette vallée de la Santoire où elle a grandi, et dans ce milieu paysan qui a été le sien, puisque c'était celui de ses parents et sans doute de ses grands-parents depuis des générations. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un de ces auteurs qui sauve un monde, en l'occurrence cette paysannerie de moyenne montagne qui disparaît peu à peu, avec les personnages qu'on pouvait y croiser. Un monde qui avait bien sûr ses petitesses, mais qui avait aussi sa grandeur. Et là, avec Les Sources, elle nous présente un court roman, il y a un peu plus de 100 pages, hein. Trois parties, une première de 70 pages, une première de 30 pages et une de 3 pages. Vous voyez, ça va de façon très dégressive. Et ça se passe dans avec cette famille dans une ferme reculée au bord de la Santoire, la mère, le père, deux filles et un garçon. Les filles, Isabelle et Claire, le garçon s'appelle Gilles. La première partie, c'est le week-end. Alors ça commence comme ça, elle nous donne des dates. Le week-end des 10 et 11 juin 1967. Il faut bien avoir en tête les années en question, très important. On pourrait appeler ça, c'est le point de vue de la mère. Donc ben, c'est une femme, ce qu'on appelle aujourd'hui une femme battue. Maltraitée aussi bien par les mots que par les coups, par son mari. Elle a eu 3 enfants très rapidement après son mariage. Et c'est une femme qui vit dans la peur ou au minimum l'angoisse tous les jours, qui va se laisser aller, qui va grossir, qui se dégoûte d'elle-même, d'autant plus que son mari fait tout pour la dégoûter de ce qu'elle est, qui va vraiment sombrer dans la haine de soi et puis ce qu'il faut bien appeler la dépression. Et le père est décrit, en tout cas dans les yeux de la mère, par les mots de la mère, comme un tyran domestique, un type extrêmement sadique, qui la rabaisse tous les jours, qui la traite comme une bonne à rien, qui la traite de bonne à rien. Et elle-même finit par parler d'elle en disant « Je suis une viande lourde, une viande qui pue », parce qu'il lui dit qu'elle pue. Je reprends les mots hein, vraiment très crus qu'elle utilise. Bon, les enfants vivent aussi évidemment dans la peur. Il y a aussi ces mots qu'elle dit en se mariant, elle entre dans un hiver qui ne finira pas. Les mots qui font tant de dégâts que les coups. Bon, on voit ce qu'a pu être la condition des femmes dans la France encore très rurale d'avant 1968, avec un couple qu'on dirait peut-être aujourd'hui mal assorti, sans amour, où il faut sauver les apparences, surtout à la campagne, dans ces campagnes où tout le monde se connaît, où tout se sait, où on ne peut pas être anonyme, où on ne divorce pas. Et où on peut passer sa vie dans un couple comme ça, sans amour, au milieu des coups et des insultes.
Éric, ça c'est la première partie. Oui. Il y a deux autres parties. On ne va peut-être pas rentrer à chaque fois en détail, mais dites-nous quand même les 3 autres dates.
Non, la deuxième partie, c'est 19 mai 1974, élection de Valéry Giscard d'Estaing. Ça commence comme ça. Et là, c'est le point de vue du père, qui lui va raconter comment lui vit les choses. Il vit les choses de son côté. Sa femme l'a quitté. Elle finira par avouer à sa mère ce qu'elle vit tous les jours. Donc elle va partir. Elle va même divorcer. 3 ans après avoir quitté la maison, elle divorce. Elle part en 67, nous sommes en 74. Donc 7 ans après, il raconte un peu ce qu'il est devenu. Il est content parce qu'il a pu garder quand même la ferme. Il a pu rester en quelque sorte un peu un notable du coin. Il en veut évidemment beaucoup à sa femme. Il lui pensait qu'elle ne partirait pas d'une part, mais même qu'étant partie, qu'elle reviendrait évidemment. Et là, elle ne va pas revenir. Et puis on voit ce monde qui disparaît parce que l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, qui était un Auvergnat lui aussi, hein, après le passage Pompidou, on voit le point de bascule, le monde est en train de changer. La paysannerie doit faire face maintenant à la politique agricole commune européenne. Donc elle parle aussi de tout ça, Marie-Hélène Lafont, c'est toujours en filigrane, mais c'est toujours très présent dans ce qu'elle raconte. Il parle de son fils qu'il voit comme un bon à rien. En revanche, ses filles qui ont fait des études, qui ont réussi, qui vont devenir professeurs, il les voyait devenir professeurs, pharmaciennes, il en est très fier. C'est ça qui est paradoxal. Il traite très mal sa femme, mais il est très fier de ses filles. Et son fils est un bon à rien parce qu'il voit qu'il ne pourra pas reprendre la ferme. Donc c'est un bon à rien, évidemment.
Et la troisième partie.
Alors, il y a des personnages de femmes fortes. Et la troisième partie, ça dure, c'est trois pages. C'est Claire, la cadette des deux filles. Elle a 59 ans. En 2021, là ça se passe le 28 octobre 2021, elle revient à la forme, à la ferme, pardon. Elle s'appelle Claire, mais bon, elle a 59 ans comme Marie-Hélène Lafont, vous en déduirez ce que vous voudrez. La ferme, on comprend que la ferme a été vendue, il y a de nouveaux propriétaires qui ne l'habitent pas encore, le père doit être mort. Et elle revient voir ce monde qui a disparu, mais où il subsiste encore des souvenirs. Quelques bons souvenirs, notamment des souvenirs dans la nature. Ça n'a pas changé. Et ça se termine un peu là-dessus, dans la douceur. Alors les sources, pourquoi les sources plutôt que les racines? Elle l'explique d'ailleurs dans le livre. Moi, ce que je comprends, c'est que les racines, c'est quelque chose qui vous retient, alors que la source continue de couler. On peut revenir s'y rafraîchir, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs à la fin, mais elle continue de couler, elle suit son chemin et elle peut aller ailleurs. L'eau va où elle veut, vous voyez. Voilà, alors il y a toujours cette écriture avec une économie de moyens, de mots. Marie-Hélène Lafont me fait penser à une pianiste qui jouerait toujours la note juste en lui donnant son juste poids. C'est exactement ce qu'elle fait avec les mots. Et il y a quelque chose qui me fait beaucoup penser aussi dans son écriture et dans la façon qu'elle a. Il y a des descriptions des lieux, des êtres qui sont remarquables. Ça me fait penser beaucoup au cinéma de Robert Bresson ou de Karl Dreyer. Il y a quelque chose de très janséniste. Son modèle, c'est Pierre Michon.
Ça s'appelle
Les Sources.
Les Sources, c'est signé Marie-Hélène Lafont. On sent que vous l'avez beaucoup aimé. C'est un court récit. Hein. C'est aux éditions Buchet-Chastel. Je vous propose, pour faire écho peut-être au premier chapitre et l'actualiser un peu, eh bien d'écouter une jeune chanteuse. Elle s'appelle Colline Rio.
Pourquoi la rue est à toi? Oh, mon manteau carré, quand le soleil dévale la vallée, au crépuscule, à la nuit tombée, quand seuls les phares viennent t'éclairer. Pourquoi la rue est à toi? Oh, ma allure blessée, quand la nuit froide vient nous entourer, quand rien ne bouge, que tout reste figé, quand le silence vient te caresser. Pourquoi la rue est à toi? Oh, mon visage marqué, quand le jour pointe le bout de son nez, l'aube du monde tout juste éveillée, quand tout résonne, un écho qui frissonne. J'aimerais m'enfuir au hasard quand vient le soir, au camp. J'aimerais, tant pis si je ne m'en sors pas. Pourquoi le monde est à toi? Homme, tu m'as blessé. Durant des siècles, tu m'as opprimé. Comme tant d'autres, tu m'as menotté. Pour seule raison, notre sexe opposé. Pourquoi le monde est à toi? Homme, tu es piégé par le diktat d'une même pensée. Ouvre tes bras, regarde, je suis là. Ta sœur, ta mère, ton ami, ton allié. Pourquoi le monde est à toi? Homme, tu dois changer. Comme le ciel, tu dois te dévoiler. Lâche les rênes, oh laisse-moi guider. Lâche mes ailes, laisse-moi respirer.
Voilà, ça s'appelle Homme. Cette chanteuse, c'est Colline Rio. On l'avait découvert il y a quelques temps dans une reprise des Moulins de mon cœur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça donne la chair de poule.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Allez, on retombe sur nos pattes. Encore un peu de délicatesse dans cette émission. On va se diriger vers le musée d'Orsay, où est actuellement présentée une exposition de pastels. Agnès Manoret-Onil, vous avez été voir cette exposition. Mais avant de parler d'exposition, je voudrais qu'on fasse un petit peu de pédagogie. Parce que pastel, de quoi parle-t-on quand on parle de pastel?
La plupart du temps, on pense couleur pastel ou on pense au crayola des enfants. En fait, c'est une technique très difficile qui est très bien présentée dans la première salle du musée où on voit exposer des bâtons de pastel et où est faite un peu l'histoire de ce médium.
C'est ni de la peinture, ni du dessin, c'est un entre-deux.
Et ça permet les deux. En fait, vous avez le pigment qui va être mélangé avec de l'argile ou du kaolin, et puis un liant. Selon le liant, vous allez avoir des différents types de pastels, plus ou moins tendres, plus ou moins durs. Et alors, ce que j'ai appris et que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que on est passé d'un nombre réduit en fait de teintes à un nombre faramineux grâce au travail d'un pharmacien qui s'est passionné pour le pastel, qui était un amateur d'art. Et je me suis dit, par rapport à aujourd'hui où les laboratoires pharmaceutiques sont sans doute responsables du meilleur comme du pire, d'imaginer qu'un pharmacien avait permis aux artistes du 19e siècle d'étendre comme ça la palette des couleurs pastel, j'ai trouvé ça extraordinaire.
Et à l'époque, on ne déposait pas de brevet pour enfermer les couleurs. Trêve de, je termine la parenthèse.
Alors, le pastel est une technique qui fait des œuvres très fragiles. C'est extrêmement sensible à la poussière, à la moisissure en particulier. Donc, le musée d'Orsay conserve dans ses réserves 500 pastels, qui sont souvent de petits formats. Et cette exposition, on a choisi 95, donc c'est une plutôt petite exposition. Mais il y a un projet, en fait, d'avoir une salle permanente des pastels du musée d'Orsay avec un système de roulement pour ne pas trop les exposer à ce qui les fragiliserait et qui ferait perdre ce qu'on appelle la fleur du pastel, ce sentiment qu'on aura envie de toucher parce que c'est velouté, à la différence d'un vernis qui, voilà, c'est ça qui fait toute la fraîcheur du pastel. Mais ce qui est extraordinaire dans l'exposition, c'est de voir qu'on a une très très grande diversité d'œuvres à partir de ce même médium, à la fois des œuvres qui jouent sur la couleur avec parfois une très grande intensité de couleur, donc pas du tout des couleurs pastel, je dirais, et puis d'autres œuvres qui sont très graphiques, et en particulier une j'y pense à cause de la chanson que vous nous avez faite écouter. Ça s'appelle La Repasseuse, c'est une œuvre de Degas. Donc, essayez d'imaginer, donc sur un papier légèrement rosé, c'est une œuvre qui est au fusain et au pastel avec assez peu de couleurs, une palette assez réduite. Et on voit une repasseuse qui est les deux bras posés sur sa planche à repasser avec le bras gauche qui tient fermement le fer à repasser. C'est pas une centrale vapeur oui. Siemens. Et quand on la voit, on se dit, celle-là, si jamais elle lève le bras avec le fer à repasser, c'est pour ma pomme, qu'on se tienne bien. Et je trouve que c'est une très belle image de force. Et on n'imagine évidemment pas qu'on puisse dessiner ce genre de choses au pastel. On a évidemment des portraits bourgeois, des scènes de genre, des nus à la toilette en particulier. On a aussi toute la gamme du symbolisme, du très mystérieux avec une salle consacrée à Odilon Redon. Mais je dois dire que l'œuvre qui m'a le plus marquée, c'est cette repasseuse où Degas s'intéresse à ces nouveaux métiers que l'exode rural commence à faire naître en ville.
Voilà. Vous nous avez en donné envie. Hein. Donc, pastel de Millet à Redon, ça se passe au musée d'Orsay et c'est donc jusqu'au mois de juillet. Merci Agnès. François-Xavier Maigre, on termine avec vous, mais on termine en beauté avec un feu d'artifice. Hein. Le groupe U2, qui a longtemps été proclamé comme le plus grand groupe de rock au monde, revient avec un album qui s'appelle Songs of Surrender. Et c'est un album où ils revisitent leur carrière. C'est un album, un gros album avec 40 titres, hein, c'est ça ?
Oui, c'est vraiment une somme et c'est une sorte de récapitulation de leur œuvre et aussi une mise à nu. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement émouvant. Alors, je sais que ça n'a pas été partagé forcément par tous les fans de U2, parce que c'est vrai que U2, c'est un groupe qui a construit son identité sonore sur un son extrêmement produit, extrêmement travaillé, avec en particulier cette batterie puissante de Larry Mullen Jr., ce son de basse entêtant d'Adam Clayton et cette guitare gorgée d'écho, de delay, de reverb de The Edge qui est si reconnaissable et qui provoque un vrai voyage très spectral. Il y a quelque chose de très impressionniste dans le son du tout. Et là, pas du tout. Ils se sont mis à nu, ils ont tout rejoué en acoustique. La voix de Bono s'est patinée avec le temps, mais elle reste sublime. Et dans cette mise à nu, on réalise que d'abord, il y a de grandes chansons et de les comme ça de les découvrir quelque part, de les rendre plus fragiles, ça fait ressortir leur qualité intrinsèque, leur qualité d'écriture, et c'est ce qui m'a plu moi dans cet album.
Alors on écoute peut-être la plus célèbre des chansons de U2, on écoute un extrait de Sunday Bloody Sunday et puis après vous continuerez à nous en parler.
I can't believe the news today. I can't close my eyes. Make it your
away. How long must we sing this song? How long, how long? 'Cause tonight we can be as one. Tonight broken bottles under children's feet, bodies strewn across a dead end street. I won't heed the battle call that puts my back up, but back up against the wall.
Sunday, bloody
Sunday.
Sunday, bloody
Sunday.
Il faut que je vous raconte ce qui se passe en studio actuellement. Ouais. On a Pierre Samanos qui réalise l'émission, qui est pas du tout d'accord. Moi, je trouve ça très, très beau, magnifique. J'ai écouté l'album en long, en large et en travers. Mais alors, Pierre Samanos, pour lui, il dit ils n'ont plus rien à raconter.
Bah, c'est assez clivant. Hein. Moi, ce que j'entends, c'est, il y a un groupe avec lequel on a grandi, parce que U2, c'est un groupe qui est actif depuis la fin des années 70. C'est colossal. Ils ont une très, très longue histoire. Et là, on a l'impression qu'ils sont au coin du feu avec nous dans le salon. Ils ont vieilli avec nous, et ils nous racontent toujours quelque chose du monde. Et cette chanson, c'est quand même une grande chanson, voilà, qui est inscrite dans l'histoire du conflit nord-irlandais. Elle fait référence au Bloody Sunday de 72. C'est un hymne à la paix qui a traversé les époques, qui reste éminemment signifiant et évocateur. Et ouais, moi je suis très touché par parce que je trouve ça courageux de leur part. Quand on remplit les stades du monde entier, qu'on n'a plus rien à prouver, on peut être tenté de se réfugier derrière cet arsenal du gros son, de la production. Et là, ils se mettent vraiment à nu. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très à rebours de notre époque, avec les sons électroniques, la musique faite par ordinateur. Là, on est vraiment, c'est la quintessence de ce qu'est le rock, c'est-à-dire une guitare, une bande de potes qui jouent ensemble et qui se révèle, quoi. Et ça, je trouve ça extrêmement réussi. Il y a d'autres très belles chansons, hein, sur.
Alors justement, vous voulez nous faire découvrir un autre morceau.
C'est une chanson. Alors en fait, quand j'étais collégien, la chanson avait déjà quelques années au compteur, mais c'est un des premiers morceaux qui m'a vraiment touché, qui m'a donné envie d'apprendre la guitare, de fonder un groupe de rock. Et on y ressentait dans la version originale toute l'urgence de l'adolescence, quelque chose de très fougueux, de très flamboyant. Et je trouve que cette version d'un U2 de la maturité, comme ça, qui a un peu débranché les amplis, révèle encore autre chose, de plus dans le mystère et dans la profondeur. Et on sait combien pour au moins trois des membres du groupe, la foi chrétienne est quelque chose de très important. Et je trouve qu'on sent, alors peut-être pas dans cette chanson, mais en tout cas dans beaucoup d'autres, on sent combien ce sont des gens qui sont aussi aimantés par une forme de quête de transcendance. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le magnétisme qui se dégage de cette version de Out of Control.
Monday morning, 18 years of dawning. I said how long, I said how long. It was a wonderful morning. I woke the world with bawling. I was so sad and they were so glad. I had the feeling it was out of control. Was all the opinion it was out of control. Whoa.
Tous mes encouragements à aller écouter ce formidable album de U2, Songs of Surrender. Vous allez voir, plein de souvenirs vont vous remonter, puis dans un autre son, enfin c'est superbe. Voilà, merci François-Xavier pour cette proposition. On approche de la toute fin de cette émission. Agnès Manotteretoni, c'était votre première, vous reviendrez ?
Oui, avec plaisir.
Eh ben voilà, nous aussi on vous accueille avec plaisir. Merci beaucoup, merci Eric Dupri et puis à l'équipe de Radio Présence à Toulouse. Merci à François-Xavier Maigre et bien sûr, merci à Pierre Samanos qui, vous l'avez compris, a aussi des très bonnes oreilles rock'n'roll. On ne se quitte pas sans une citation. J'en ai choisi une de Marie-Hélène Lafont. Il y a de la douceur dans les routines qui font passer le temps, les douleurs et la vie. Alors je vous souhaite de jolies routines pour ce week-end et pourquoi pas d'écouter Effervescence.